Monsieur François Héran.
Alors, dans ce cycle annuel organisé par l'Université de tous les savoirs, la démographie tient la vedette le temps de 5 séances. Et je mesure évidemment le privilège que l'on m'accorde en me permettant d'ouvrir la série. Alors, ma mission est redoutable. Je vais essayer en une heure, en une petite heure, de vous donner un aperçu suffisamment attirant ou éloquent de la démographie pour ne pas vous décourager d'assister aux quatre conférences suivantes. Alors, on peut aborder la démographie sous bien des angles. Pour nous plonger d'entrée de jeu dans l'approche démographique, je commencerai par un exercice des plus classiques, le commentaire de la pyramide des âges, en m'attardant sur le cas de la France, complété par la Russie, le cas de la Russie et celui de la Chine, soit un quart de la population mondiale, essentiellement à cause de la Chine, bien entendu. Après quoi, je m'interrogerai plus longuement sur les conditions de possibilité de l'approche démographique. Au fond, comment ce type de savoir, à la fois totalisant et réducteur, s'est-il constitué historiquement ? Que nous apprend cette histoire sur la nature même de la démographie ? Qu'est-ce qu'on découvre si on se met à creuser sous les pyramides ? Alors, la pyramide des âges a été inventée en 1870 par le général Francis Walker, qui était le directeur du bureau du census américain. Et le principe en est simple, il y a deux diagrammes en barre, placés dos à dos, les hommes toujours à gauche, les femmes toujours à droite, au milieu la gradation des âges, et sur les côtés, parfois, le rappel des années de naissance, ce qui n'est pas le cas ici. Et on peut ainsi empiler une centaine de générations, au sens que les démographes donnent au mot génération, c'est-à-dire l'ensemble des personnes nées la même année. Et la longueur de chaque barre, qu'indique-t-elle ? Eh bien, elle indique le nombre de survivants de la génération qui sont encore présents sur le territoire. C'est-à-dire les naissances moins les décès, plus les immigrants moins les émigrants. Et je rappelle que ce que les démographes appellent la population française couvre l'ensemble de la population qui vit sur le territoire français, qui est l'ensemble des personnes installées en France, quelle que soit leur nationalité. Alors, avant d'examiner la pyramide actuelle, je vous invite donc à remonter le temps et à examiner la pyramide des âges de la France sous les règnes de Louis XV et de Louis XVI. Une pyramide un peu spéciale où on a dressé en quelque sorte un état de la population moyenne sur une période d'une certaine durée. Un vaste sondage dans les registres paroissiaux effectué par Louis-Henri, le père de la démographie historique, a permis de reconstituer la population de l'Ancien Régime. Et les âges ici sont groupés sont agrégés par groupes quinquennaux. Alors la France à l'époque comptait 26 millions d'habitants à peu près. Et vous voyez qu'à la veille de la Révolution, au fond, la forme de la pyramide est extrêmement régulière. C'est réellement une pyramide pyramidale. Mais ce triangle qui est quasi parfait ne doit pas nous tromper. En fait, il traduit déjà une limitation certaine de la fécondité. Nous ne sommes pas en présence d'une population à forte croissance comme ce que donneront les populations du tiers-monde dans les années 50-60, 1950-1960, sans quoi la forme de la pyramide serait beaucoup plus concave et la base serait beaucoup plus élargie. Nous sommes déjà passés à un stade différent. Je reviendrai longuement sur cette période tout à l'heure. Alors, plaçons-nous maintenant en 1901, c'est la date du premier recensement moderne, c'est-à-dire avec un bulletin individuel par habitant et avec une déclaration de l'année de naissance, et pas seulement de l'âge, qui avait une fâcheuse tendance à être très arrondie. Alors, la France compte 38 millions d'habitants, c'était il y a un siècle, et donc cette population achève de disparaître à quelques centenaires près. Alors, de la pyramide, nous sommes passés à la meule de foin, comme on dit parfois, c'est le signe que la baisse tendancielle de la fécondité s'est amplifiée, s'est poursuivie. Et en fait, à cette époque, en 1901, la France est le pays le plus vieilli d'Europe, en fait, le pays le plus vieux du monde. Elle s'achemine doucement vers une population stationnaire, c'est-à-dire que sa croissance est extrêmement réduite à ce moment-là, et guère plus de naissances que de décès. Elle a un profil qui ressemble à une courbe de survie. Les taux de natalité et de mortalité s'équilibrent à peu près aux alentours de 20 pour 1000. Et c'est un moment très important historiquement, c'est le moment où la population française est en train de se faire rattraper à toute vitesse par la population anglaise qui, elle, s'accroît très rapidement et qui est en train d'expédier des excédents considérables dans le Nouveau Monde. Alors, sautons en 1921. On va peut-être élargir un peu. Alors, 1921, c'est le premier recensement qui suit la Première Guerre mondiale. Le pays compte 39 millions d'habitants. Tout à l'heure, en 1901, c'était 38. On voyait une croissance à peu près nulle depuis le début du siècle. Et le bilan de la guerre est absolument désastreux. Vous avez ici 1,5 million de morts, du côté masculin uniquement. Ce sont des pertes militaires, fondamentalement. 1,5 million de morts, alors que l'Alsace-Lorraine, que l'on a récupérée au lendemain de la guerre, comptait à peine plus, 1,7 million. 16% des mobilisés ont été tués, et le chiffre va beaucoup plus loin encore pour la génération 1894, la classe 14, les gens qui avaient 20 ans en 1914, puisque 28% de la classe 14 a été tué. Et cette béance au flanc de gauche de la pyramide donc, est quelque chose que la France n'avait jamais connu. Alors, deuxième conséquence de la guerre, c'est la double encoche extrêmement visible au bas de la pyramide, et cette fois symétrique. C'est ce qu'on appelle les classes creuses, c'est-à-dire le 1,5 million d'enfants qui auraient dû naître pendant la guerre et qui ne sont pas nés, du fait des séparations, des décès subis par les couples. Et ce déficit, à la différence des victimes directes, est évidemment réparti donc à part égale sur les deux sexes. Il ne sera pas rattrapé dans les années d'après-guerre et il va marquer la pyramide française pendant très longtemps, pendant 100 ans. Nous l'avons encore, je vous le montrerai. Alors voici maintenant la pyramide que je me devais de vous présenter dans le cadre de la mission 2000. La pyramide des âges de la France au 1er janvier 2000. D'après les données toutes fraîches qui ont été livrées par l'INSEE il y a 15 jours. Donc en fait, c'est le bilan de l'année 99. Alors cette pyramide, elle rassemble 1% de la population mondiale, puisque nous sommes 60 millions sur une planète de 6 milliards. 6 milliards. Donc nous sommes juste 1% de la population mondiale. Alors parcourons-la de haut en bas. On voit d'abord clairement que les hommes meurent plus tôt que les femmes, ils sont nettement moins nombreux que ne le sont les femmes au même âge. On vérifie aussi que le sommet de la pyramide est toujours marqué par l'encoche des classes creuses de la guerre de 14. C'est ce qu'il y avait au bas de la pyramide de 1921 que vous voyez ici. Avec cet effet très particulier que, pendant un temps, la présence de ces classes creuses ralentit le vieillissement de la France, allège le poids de la dépendance, le poids des personnes du quatrième âge, les plus de 80 ans. Mais il est visible aussi que c'est partie remise et que d'ici quelques années, le problème va se ressurgir dans toute sa force. Alors plus bas, l'entre-deux-guerres se caractérise par la dépression de la natalité. Toute cette période ici, ça commence ici, c'est le numéro 2. Accusé par le fait qu'à la fin des années 30, les générations qui sont en âge d'avoir des enfants, ce sont justement les classes creuses de la guerre de 14. La Seconde Guerre mondiale éclate. Vous voyez que là, vous avez une entaille aussi, qu'il y a la Seconde Guerre mondiale a ses propres classes creuses, mais beaucoup moins importante que la guerre de 14. Les victimes de la Seconde Guerre mondiale ne sont pas 1,5 million, mais 600 000. Avec cette grande particularité que cette fois, il y a plus de civils que de militaires qui sont touchés, environ 350 000 civils pour 250 000 militaires. À partir de 1946, il y a un double phénomène qui se produit. D'abord, les générations des années 20, celles qui étaient relativement bien fournies, arrivent à l'âge de fécondité. Et puis ici, vous voyez l'année 1946, et une particularité, en 1946, tout à coup, 200 000 naissances de plus. Non seulement les classes des années 20 arrivent à l'âge de fécondité, mais en plus, elles se mettent à avoir des enfants à un niveau absolument inhabituel. C'est le fameux baby boom qui s'étend, selon la chronologie la plus souvent retenue, de 1946 à 1974, c'est-à-dire au fond tout le long de la croissance, de la période de croissance que l'on appelle aujourd'hui couramment les 30 glorieuses. Et en réalité, alors on sait maintenant, grâce aux travaux de Gérard Callot et Jean-Paul Sardon, on sait que le baby-boom a commencé plus tôt, qu'il a commencé juste avant la guerre, mais il n'était pas visible sur la pyramide, il n'est pas visible du fait que la population des femmes en âge d'avoir des enfants appartenait encore aux classes creuses. Mais le peu qu'il y avait présente à ce moment-là avait déjà beaucoup plus d'enfants que leurs aînés. Comparé aux autres pays occidentaux, la France a connu un baby-boom plus intense, plus durable, et la brutalité de ces effets donc, est très visible sur la pyramide. Vous imaginez bien que cette année 1946, 7 ans plus tard, s'est traduit par des difficultés considérables dans l'accueil des enfants d'âge scolaire, par exemple. Cette parenthèse du baby-boom, car c'est une parenthèse tout à fait singulière, tout à fait unique dans notre histoire, s'interrompt en 1974. Elle n'était pas destinée à durer, je crois que sans quoi la France aurait connu une croissance très difficile à gérer. Et les enquêtes rétrospectives menées par l'INED, et notamment par Henri Léridon, auprès des femmes qui ont eu des enfants pendant toute cette période, ont révélé que 20% des naissances du baby-boom n'étaient pas désirées. Et qu'une proportion équivalente était survenue à une date non prévue par le couple. La diffusion des moyens modernes de contraception, qui commence à ce moment-là, permet désormais, enfin à partir de 68, disons que ça se généralise dans les années 70, permet désormais aux couples de planifier leur naissance, et pour ces différentes raisons, finalement, un nouveau baby-boom qui retrouverait le niveau de fécondité des années 46-50, près de 3 enfants par femme en moyenne, et supposerait un désir d'enfant très supérieur à celui qu'avaient les femmes de cette époque. À compter de 75, le profil de la pyramide suit fidèlement la courbe de la natalité, qui se met à chuter, si fortement, à partir de 74, avec des petits ressauts, mais l'année la plus basse pour l'instant en nombre de naissances, c'est 93-94. Et puis depuis, il y a une légère remontée. En tout cas, la pyramide ne se rétrécit pas. C'est ce que l'INSEE a encore confirmé tout récemment. Qu'en sera-t-il à l'avenir? Eh bien, c'est très difficile à dire, évidemment, parce que, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que la tendance à la baisse, elle est déjà inscrite dans la pyramide. Puisque les générations féminines en âge d'avoir des enfants, dans les prochaines années, sont les générations nées après 1974. Et donc, fatalement, sauf si elles ont en moyenne plus d'enfants que leurs aînés, il y aura une poursuite de la baisse de la natalité. Alors, comme la pyramide française, les pyramides russes et chinoises constituent un puissant révélateur des traumatismes et des retournements de l'histoire, mais avec cette particularité, évidemment, qu'on n'y voit pas seulement les traces des grands conflits mondiaux, on y voit aussi l'effet désastreux des campagnes économiques et politiques qui déstabilisent les populations avec leur cortège de famines, de massacres, de naissances entravées, etc. Alors voici la pyramide des âges de la Russie au 1er janvier 1999, pyramide beaucoup plus chahutée, sabrée régulièrement par les désastres de l'histoire. Vous avez en haut, d'abord une différence homme-femme très, très marquée. Beaucoup de victimes de la Seconde Guerre mondiale ici, victimes directes. Et en même temps, vous avez des classes creuses aussi de la guerre de 14-18 qui sont encore un petit peu visibles là. Cette encoche ici correspond à la collectivisation forcée des campagnes, à la découlakisation, suivie en 1933 de la famine consécutive à cette désorganisation. Cette pointe, c'est un certain rattrapage des naissances, mais aussi l'interdiction de l'avortement décidée brusquement par Staline. Et puis là, formidable encoche des classes creuses de la Seconde Guerre mondiale en Union soviétique. Et impressionnante, ce qui fait qu'aujourd'hui encore, il y a très peu de gens qui ont 55 ans en Union soviétique. Il y a un rattrapage des naissances après la guerre, et puis ensuite, l'effet des classes creuses ici se retrouve une génération plus bas. Il y a une espèce de retour périodique, évidemment. Il ne faut pas oublier, quand on lit une pyramide, que chaque génération engendre les générations suivantes 25-30 ans plus tard. Et on a tout à fait ce rythme qui apparaît ici. Il y a une politique familiale un peu plus solide du temps de Gorbatchev, mais à partir de 1988, le régime soviétique s'effondre et les naissances chutent, comme vous le voyez. La pyramide chinoise, quelqu'un me disait qu'elle a un peu une forme de pagode, elle traduit dans sa partie haute une pyramide qui est beaucoup plus de pays en voie de développement, une poids de personnes âgées relativement faible. Vous avez ici les victimes directes de la guerre civile, de la guerre sino-japonaise, de la guerre d'indépendance, etc. Vous avez là toute la désorganisation, les années noires du grand bond en avant sont ici. Donc, énormément de naissances qui ont été entravées par les déplacements des familles, la désorganisation des campagnes. Ici, 1966, une petite encoche très visible, c'est la révolution culturelle. Et puis ensuite, la politique de l'enfant unique, drastique, avec quelques retours en arrière, et qui se poursuit actuellement. Alors, en définitive, que voyons-nous sur une pyramide des âges? On voit à la fois l'ordre biologique de la reproduction et les désordres sociopolitiques. On peut voir, par exemple, un peu partout, que le nombre de garçons excède légèrement le nombre de filles à la naissance. On voit également la population qui s'éteint peu à peu aux grands âges, etc. Mais la pyramide révèle surtout les irrégularités qui se détachent sur ce fond à la suite des interventions intempestives de l'homme dans l'histoire des peuples, interventions qui sont parfois euphoriques, comme le baby boom, parfois drastiques, comme la politique de l'enfant unique, et le plus souvent calamiteuses, comme les années noires du grand bond en avant, ou la collectivisation des campagnes en Union soviétique. Et ces échos se répercutent à leur tour à la génération suivante. Alors, après cette rapide entrée en matière, cet exercice de commentaire de pyramide des âges, essayons de réfléchir de manière un peu plus approfondie sur les implications de l'approche démographique. On dit souvent, c'est une formule consacrée, que la démographie traite des phénomènes les plus élémentaires de l'existence, la vie, l'amour, la mort. C'est vrai, à condition d'ajouter aussitôt qu'elle les traite avec tout de même beaucoup de distance. Si vous mettez la vie, l'amour, la mort dans les mains du démographe, cela devient prosaïquement les naissances, les mariages, les décès. Et en France, 740 000 naissances, 280 000 mariages, 530 000 décès. Alors voilà les temps forts de l'existence qui sont réduits à des séries de chiffres. Le démographe, vous l'avez compris, il ne fait pas de sentiments. Il ne s'intéresse pas aux passions individuelles, il s'intéresse au mouvement de la population, au bilan comptable du renouvellement. Et s'il se penche sur la mortalité infantile, ce n'est pas pour pleurer la mort des enfants. Il fait mieux que cela, si vous voulez, quand il essaie de montrer sérieusement l'ampleur du phénomène, parce que décrire, c'est souvent dénoncer, hein, sans qu'il soit besoin d'en rajouter. Alors le démographe privilégie comme matériau les traces déposées dans des documents officiels, standardisés, les bulletins de l'état civil, les bulletins de recensement, les registres de population quand ils existent, ce n'est pas le cas en France, et à défaut, comme lorsque la cohabitation se substitue au mariage, par exemple, les questionnaires d'enquête. Proust disait que le statisticien opère à vol d'oiseau, il voit les choses de haut et de loin, sans s'arrêter à l'infinie diversité des trajectoires individuelles. Eh bien, le démographe est un de ces oiseaux. Et du coup, sa vision du monde est pour le moins réductrice. Seulement, je crois qu'il faut observer aussitôt que cette réduction est déjà largement préparée par la société. Après tout, c'est elle qui, bien avant le démographe, s'est employée à ritualiser les temps forts de l'existence, en célébrant par exemple des rites de naissance, des rites de passage pour tous les moments critiques du cycle de vie, les baptêmes, les mariages, les funérailles, dans certains pays le passage des frontières, l'acquisition de la nationalité. Et entre les officiants des rites de passage et les officiers d'état civil, il y a un lien direct. Les uns et les autres tiennent registre de leur activité parce que les identités civiles sont certifiées socialement et le démographe ne fait que reprendre à son compte les produits de cette activité. Alors, il s'ensuit quelques conséquences qui méritent commentaire. D'abord, ce que j'appellerais le grand nivellement. À la hauteur où se place le démographe, les différences individuelles s'estompent. Tout le monde compte, et chacun compte pour un. On ne peut compter des individus, en faire la statistique, qu'en faisant comme s'ils étaient tous les mêmes. C'est ce qu'explique Jacques Vallin en tête de son introduction à la démographie. Alors évidemment, le démographe ne tarde pas à découper dans cette masse des catégories de sexe, d'âge, d'état matrimonial, de profession, de résidence, etc. Mais ces classes d'équivalence ne remettent jamais en cause le principe de la neutralisation. Aucun dénombrement ne va donner aux individus un poids a priori qui serait fonction de sa surface sociale. De leur surface sociale. Le même sort est réservé aux grands et aux petits, à l'élite et aux sans-grades. Donc la pyramide des âges illustre déjà ce coup de force qui apparaissait très fortement quand les premiers démographes ont commencé à entrer en scène il y a 2 siècles. À l'instar de la mort, la démographie est une grande niveleuse. Ma seconde réflexion vous semblera peut-être encore plus étrange. Il y a, dans cette posture du démographe, et plus généralement du statisticien social, une sorte de détachement qui n'est pas sans évoquer les exercices spirituels qui étaient pratiqués dans la philosophie antique. Alors, lisez Marc Aurèle, par exemple, l'empereur stoïcien, qui à un moment cite ce texte. Il cite un texte qu'on ne connaît pas, de Platon, qui dit ceci, « Pour parler des hommes, il faut examiner les choses terrestres comme depuis un lieu élevé, les rassemblements, les expéditions armées, les mariages et les ruptures, les naissances et les décès, le tumulte et les tribunaux, les contrées désertes, la diversité des nations, les fêtes et les deuils, les marchés, tout se mélange et ses contrastes, et voir l'ordre qui en est. » Pierre Hadot a montré que ce texte et bien d'autres renvoyaient à des exercices spirituels fabriqués par les écoles philosophiques. Les néophytes devaient apprendre à suspendre tout jugement de valeur, à ne rien projeter de leurs affects, à s'exercer, à prendre de la hauteur au sens concret du terme, en imaginant par exemple qu'ils s'envolaient au-dessus de la terre jusqu'à la réduire à un petit objet lointain. Et parvenus à ce point de vue supérieur, eh bien, ils pouvaient extraire du désordre apparent des affaires humaines la régularité d'un ordre universel et divin. Et cette culture du détachement, historiquement, marque une étape importante dans la genèse du regard scientifique, de l'esprit scientifique. Une variante de cette technique de recul consistait à méditer sur le passage du temps. Ce grand niveleur, lui aussi. Toute la génération de Vespasiens, dit encore Marc Aurèle, a disparu. Tous ces gens qui se sont mariés, ont eu des enfants, sont tombés malades, sont morts, ont fait la guerre ou célébré des fêtes, ont trafiqué ou cultivé la terre, aimé ou conspiré, ces gens ne sont plus. Et il en va de même de la génération suivante. Et c'est un hasard donc si ces exercices d'impassibilité mentionnent le roulement des naissances, des mariages, des décès. Dans sa version première, en tout cas, le regard démographique est un regard détaché et totalisant sur les affaires humaines. C'est un regard impérial et universel, quasiment divin. Et après tout, Marc Aurèle, c'est pas seulement un philosophe, il s'inscrit dans la lignée des empereurs romains qui ont procédé à des recensements pour la première fois, des recensements à grande échelle, absolument exhaustifs, pour faire l'inventaire du monde, comme il disait. Et bien plus tard, l'universalisme et le providentialisme stoïcien vont trouver un écho chez les penseurs allemands du XVIIe et du XVIIIe siècle, qui s'émerveilleront de découvrir, derrière les fluctuations de la vie humaine, de découvrir quoi ? La régularité des phénomènes démographiques. Bon an, mal an, les naissances compensent les décès, les ordres de grandeur restent à peu près les mêmes d'une année à l'autre, la proportion des filles et des garçons à la naissance est constante, etc. Et une telle régularité, à leurs yeux, ne peut provenir que d'une providence divine qui est capable de saisir et d'orienter l'ordre du monde. Et c'est la thèse du pasteur prussien Johann Peter Süssmilch, qui, dans son traité de démographie paru en 1741, complété en 1762, sous un titre révélateur, au fond proclame sa thèse, l'ordre divin dans les changements de l'espèce humaine, démontré par la naissance, la mort et la propagation de celle-ci. Dès les origines toutefois, il est des hommes qui, plus prosaïquement tout de même, ramènent l'ordre divin à l'ordre des choses. Le premier, le plus singulier, reste John Grant, qui est auteur dès 1662, du premier ouvrage de démographie, Observations naturelles et politiques faites sur les bulletins de mortalité. John Grant est un riche marchand drapier de Londres, conseiller municipal. ami personnel aussi de William Petty, le fondateur de l'arithmétique politique. Ce n'est ni un mathématicien ni un théologien, c'est un comptable. C'est quelqu'un qui sait dresser des bilans, qui sait aussi faire la critique des données, ce qui est très intéressant. Et il a l'idée géniale de reprendre la liste des bulletins de mortalité publiés régulièrement par la ville de Londres pour les temps de peste et de transformer tout cela en tableau, de mettre ces listes sur des tableaux chronologiques. Et au fond, tout part de là, dans ce passage de la liste au tableau. Alors pourquoi tout ce travail, toute l'analyse à laquelle se livre Grant? Est-ce que c'est pour livrer des informations utiles aux autorités? Il n'y croit pas trop. Et il insiste en fait sur le plaisir de la découverte. On éprouve beaucoup de contentement à extraire tant de conclusions inattendues de ces pauvres bulletins de mortalité. Alors, s'agit-il d'un plaisir désintéressé? C'est évidemment plus complexe, puisque le détachement souverain, ça dissimule mal un fantasme de maîtrise qui apparaît très bien chez Grant. Grant ne cache pas sa joie à démontrer qu'un simple roturier, en faisant de la tabulation, eh bien, au fond, peut tirer de ces tableaux une vision d'ensemble de la population humaine qui, normalement, devrait être réservée au souverain. C'est un peu la libido dominandi, la passion du pouvoir, qui peut s'assouvir à travers la libido tabulandi, si vous voulez. C'est la démographie comme sublimation. Et Grant n'est pas peu fier de proclamer que son arithmétique de boutiquier, c'est ainsi qu'il l'appelle, lui permet de siéger au Parlement de la nature, c'est-à-dire cette prestigieuse société savante que le roi vient justement de reconnaître sous le nom de Royal Society et qui va être décisive dans l'essor de l'esprit scientifique en Angleterre et dans toute l'Europe. Alors, les successeurs de Grant seront eux aussi de grands tabulateurs, mais en pratiquant un autre style de détachement, je dirais plus cynique celui-là, qui consiste à plonger, selon la formule de Marx, dans les eaux glacées du calcul égoïste. Actuaires, assureurs, on a une illustration dans l'actualité récente, ils s'intéressent à leurs semblables, mais pour supputer leurs chances de survie, afin d'ajuster au mieux le montant des primes et des versements qui sont liés aux rentes viagères. Vous voulez placer une rente sur un enfant qui vient de naître, eh bien, sachez qu'il a une chance sur deux d'atteindre l'âge de 10 ans. À 20 ans, ses chances de survie remontent, etc. C'est le souci de l'astronome Edmund Halley, l'homme de la comète, c'est le même, qui en 1693 publie une estimation des degrés de l'humanité, des degrés de mortalité de l'humanité, d'après des listes, des registres de la ville de Breslau, que Leibniz avait confié à la Royal Society. Et il le fait pourquoi? Pour établir la valeur des rentes viagères. C'est le cas aussi de Wilhelm Kersebaum. Dans ses essais d'arithmétique politique, là c'est un Hollandais, Wilhelm Kersebaum, qui sait, c'est le premier fondateur de la loterie hollandaise, c'est le spécialiste des rentes viagères à l'administration des finances de Hollande, qui multiplie à cette fin donc, les relevés démographiques. Et c'est vrai aussi, cet esprit-là, vous le retrouvez chez Antoine de Parcieux, Essai sur les probabilités de la durée de la vie humaine, Paris 1746, qui est présente la première table de mortalité complète, digne de ce nom au regard anachronique moderne, 1746. Je remets le Kersebaum qui était trop... Alors, dès les débuts du XVIIIe siècle, les peuples marchands, en réalité, avaient pris l'habitude de parier sans vergogne sur la survie des grands de ce monde, les chances de survie. Et Louis XIV l'a pris à ses dépens. Saint-Simon raconte dans sa mémoire que l'on voyait décliner sensiblement la santé du roi. Les paris s'ouvrirent donc en Angleterre que la vie du roi passerait ou ne passerait pas le 1er septembre, c'est-à-dire environ 3 mois. Citation de Saint-Simon. Et Louis XIV s'en est rendu compte un beau jour, en se faisant lire les gazettes de Hollande, il a découvert cette information, que les paris étaient ouverts à son sujet, et il n'a pas pu s'empêcher, nous dit Saint-Simon, d'en être touché profondément. En définitive, les Anglais n'étaient pas mauvais parieurs, puisque le roi Soleil est effectivement mort le 1er septembre. Récit hautement symbolique, évidemment, qui a valeur de profanation, parce qu'au fond, ni Dieu, ni le souverain, ni son représentant sur Terre, si vous voulez, ne détiennent plus la clé du destin. Elle est aux mains des spéculateurs qui n'hésitent plus à allonger le corps du roi sur la table de mortalité. Et désormais, le calcul démographique est le vrai geste souverain. Alors, y a-t-il si loin, c'est la question qu'on peut se poser, de la providence divine à la prévoyance de l'assureur, du calcul divin au calcul humain? Quelle différence entre stoïcisme et cynisme, si vous voulez? Après tout, il y a de nombreuses compagnies d'assurance qui s'intitulent « La Providence ». Et tout lecteur attentif de Max Weber sait que l'effort des théologiens pour pénétrer les desseins de Dieu, les desseins cachés de Dieu, marque une grande avancée de la rationalité. Donc, providence ou prévoyance, en tout cas, on ne peut calculer les durées de vie probables qu'en tabulant une population suffisamment nombreuse dans laquelle chaque sujet, grand ou petit, compte pour un. Le roi lui-même. La tabulation reste un instrument clé pour prendre une vue d'ensemble des lois démographiques et s'introduire dans les vues du législateur divin, voire se substituer à lui. Et c'est ainsi qu'en 1710, un membre de la Royal Society de Londres, John Arbuthnot, interprète l'intervention de Dieu dans la proportion constante des naissances masculines. John Grant avait estimé le rapport à 14 contre 13, 14 naissances de garçons contre 13 naissances de filles. Arbuthnot améliore le calcul, c'est 18 naissances de garçons pour 17 naissances de filles. Et il s'interroge, comment se fait-il que ce résultat ne s'inverse quasiment jamais d'une paroisse à l'autre? Si c'était seulement affaire de hasard, le sexe d'un enfant se jouerait à pile ou face. Les filles feraient jeu égal avec les garçons. Un autre facteur doit nécessairement intervenir. Et si le léger excédent des naissances masculines est constant, c'est, pense Arbuthnot, que la Providence a voulu compenser la surmortalité des jeunes hommes à la guerre, aux colonies, etc., afin d'équilibrer les effectifs des deux sexes au moment du mariage. Et Arbuthnot, c'est ça qui est très, très intéressant, combine avec beaucoup d'astuces le hasard et les nécessités. Il n'ignore pas qu'à chaque naissance, le sexe se joue au hasard, sur un coup de dé. Mais, explique-t-il, c'est un dé spécialement confectionné par Dieu, c'est un dé à 35 faces, 18 masculines, 17 féminines. Et si les dés sont pipés, c'est donc le fait d'un trucage divin. D'où le titre triomphal du papier, vous voyez, envoyé par Arbuthnot à ses confrères dans la Royal Society, un argument en faveur de la divine providence, la constante régularité des naissances observées dans les deux sexes. Au siècle suivant, Zeus Milch, que j'ai déjà noté, poursuit un raisonnement analogue, mais beaucoup plus scabreux. Un raisonnement qui justifie la mort massive des jeunes enfants, la moitié mourait avant l'âge de 10 ans, je le rappelle, il justifie la mort massive des jeunes enfants par le besoin d'une régulation optimale dont Dieu garde le secret et qui a pour corollaire la prédestination des survivants qui est tout aussi mystérieuse. Dieu, ici encore, dit-il, témoigne qu'il est un Dieu caché mais juste et sage. Puisqu'il plaît à la divine providence de parsemer le chemin de la vie de tant d'obstacles et qu'il faut que tant d'hommes partent avant qu'ils n'aient atteint l'âge de servir Dieu leur prochain, c'est que Dieu, dont la sagesse ne choisit rien sans raison suffisante, doit nécessairement avoir eu des raisons particulières de te destiner, toi, à vivre. Dans les années 1820-1840, l'astronome et statisticien belge Adolphe Quetelet, le grand promoteur de la moyenne, eh bien, s'émerveille à son tour du retour régulier, année après année, des mariages, des naissances, des décès, dans des proportions à peu près constantes, et cela renvoie, selon lui, à la loi commune qui est voulue par Dieu. Rien n'échappe aux lois imposées par la toute-puissance divine, écrit-il. Un demi-siècle plus tard, Émile Durkheim fera un constat analogue, à ceci près que le père de la sociologie française n'imputera plus la belle régularité de l'ordre démographique à Dieu ou à la nature de l'homme, mais à ce Dieu laïque qu'est la société, entité suprême qui plane au-dessus des individus. Donc, autant de variantes de l'idée antique, déjà développée par les stoïciens, à savoir que les irrégularités qui s'observent dans l'ordre naturel comme dans l'ordre social des choses deviennent régulières quand on les regarde à bonne distance et procèdent d'une intention divine. Alors, nous venons de citer Durkheim. On a souvent dit que son célèbre mot d'ordre traiter les faits sociaux comme des choses, là, je suis en train de marquer une volonté de bâtir la science sur une rupture avec le sens commun. Dans le cas de la démographie, c'est un peu particulier, Durkheim le reconnaissait, le chercheur objective les faits sociaux finalement en misant sur des objectivations qui sont déjà faites, comme celle de l'état civil, qui sont en quelque sorte des ruptures instituées par rapport à notre vision immanente, spontanée de la vie de longue date. nous vivons flanqués d'un double de papier qui atteste la continuité de notre existence aux yeux des institutions. Et cette scission entre l'identité intime et l'identité administrative, entre l'individu personne et l'individu institution, entre l'être unique et le numéro, nous la vivons parfois douloureusement, mais enfin, le paradoxe, c'est que cette rupture est devenue pour nous une rupture familière. Nous avons deux vies en une, nous avons deux âges. D'un côté, l'âge de l'état civil, subrepticement récupéré par le démographe, celui que nous devons produire notre vie durant pour bénéficier de telles prestations, de telles réductions, de tels droits d'entrée, etc. Et de l'autre, un âge plus intime, celui de nos artères, de nos articulations, notre organisation mentale, notre organisme. Ce qu'il faut se demander dans une sorte d'angoisse romantique ou bergsonienne, lequel de ces deux âges est le plus authentique ? Non, ils sont nôtres tous les deux. Nous nous accommodons du premier, après tout. L'âge que nous choisissons de célébrer à travers le rituel des anniversaires, c'est notre âge de papier, ce n'est pas notre âge vital. Alors pourquoi le démographe préfère-t-il miser sur l'âge de l'état civil ? Eh bien d'abord parce que l'âge, c'est notre ancienneté dans la société. Ce n'est pas seulement le temps qui passe, c'est du temps enregistré officiellement, et de ce fait, il change de nature. Ce n'est plus une variable biologique, c'est une variable sociale. Ensuite, parce que cet âge social, c'est une grandeur standardisée, c'est un étalon universel. Au fond, l'état civil ne fait que reprendre le flambeau des organisations militaires et religieuses qui, depuis toujours, se sont employées à construire des cohortes, des classes d'âge, des cérémonies qui font date, et l'école ne fait pas autrement actuellement. Donc, classer universellement les gens par année de naissance, par année de promotion, ça suppose les rendre tous commensurables. Ça suppose une construction historique de très longue durée, qui est ponctuée d'ailleurs d'avancées et de reculs, selon que l'État a pu exercer ou non son pouvoir d'homogénéisation et d'intégration. Claude Nicolet, dans L'inventaire du monde, a rappelé à quel degré extraordinaire d'organisation était arrivée la Rome impériale de ce point de vue. Longtemps, les Romains s'étaient contentés de recenser les citoyens mâles en état de porter les armes, mais à partir d'Auguste, c'est la totalité de la population qu'ils recensent, y compris dans les provinces. Et on doit à ce même empereur une innovation de taille, l'obligation de déclarer les naissances sur un registre de déclaration tenu dans chaque province, la tabula professionum, professio signifie déclaration, dont chacun pouvait obtenir une copie conforme. Plusieurs lois sur les successions, sur les affranchissements exigeaient de prouver son âge. Les Romains avaient également institué à la même époque les déclarations obligatoires de décès, et il existait même un registre des acquisitions de la citoyenneté romaine, les commentarii, qui eut été donatorum. De tels raffinements dans les techniques d'enregistrement administratif ne se retrouveront en Europe qu'à partir de la Renaissance, et d'ailleurs avec référence expresse au modèle romain. En sens contraire, pour prendre juste un exemple, la dégradation récente de l'état civil en Chine est un exemple saisissant de recul. Le nombre de naissances déclarées à l'état civil chinois en 1989 est seulement de 18 millions, seulement, alors que le recensement de 90, qui porte sur l'année 89, en fait apparaître 24. C'est-à-dire que le recensement, heureusement, régulièrement la Chine fait un recensement, mais l'état civil n'est pas bon. Il y a un tiers des naissances qui ne sont pas déclarées à l'état civil chinois. Alors une fois les unités de compte standardisées, une fois l'échelle des âges uniformisée, eh bien, il devient possible de totaliser. Et au fond, la démographie, c'est ça, c'est une des sciences les plus totalisantes des sciences sociales. Et Durkheim le dit d'ailleurs avec sa clarté habituelle, un observateur isolé n'aperçoit jamais qu'une portion restreinte de l'horizon social. La démographie embrasse la société dans son ensemble. Alors les démographes sont allés même plus loin, puisque grâce au travail d'agrégation, d'harmonisation effectué dans le cadre des Nations Unies, eh bien on est capable, depuis les années 50, c'est un phénomène assez récent, on est capable d'évaluer l'effectif de la population mondiale. La planète, comme vous le savez, compte désormais 6 milliards d'hommes. Le plus extraordinaire n'est pas qu'on soit 6 milliards, le plus extraordinaire est que nous le sachions. Évidemment, ce n'est qu'une estimation qui est dotée d'une large marge d'erreur de plusieurs mois, mais le degré d'incertitude de cette totalisation fait lui-même l'objet d'une bonne évaluation. Le Population Reference Bureau de Washington, dont nous publions à l'INED régulièrement le tableau des pays du monde, attribue à chaque pays une note de A à D sur la qualité de son état civil, la fiabilité, le rythme de publication de son recensement. Et il s'avère que les géants de la planète, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, la Russie, le Brésil, qui regroupent aujourd'hui les deux tiers de l'humanité, eh bien, ils ne se placent pas trop mal sur cette échelle, ils ont la note B. Ce qui contribue évidemment à relever la qualité de l'estimation mondiale. Et nous savons ainsi, ce qui est extraordinaire quand on y pense, nous savons que l'espèce humaine compte en moyenne un peu moins de 3 enfants par femme en ce moment, contre 5 en 1950, que son espérance de vie se situe actuellement aux alentours de 66 ans, etc. Bien entendu, cette totalisation n'a pas grand sens. Quand vous voyez la pyramide de la Chine sommée avec celle de l'URSS, bon. Enfin, l'humanité dispose ainsi de son tableau de bord. Et parce qu'elle nous offre un panorama imprenable sur l'ensemble de la société, la démographie fait partie de ces outils de connaissance qui, au fond, nous libèrent de la finitude de notre point de vue. Elle nous offre aussi une vision rétrospective et prospective du corps social. Il suffit de songer donc à ces pyramides, à tout ce qu'une pyramide nous permet de voir synthétiquement sur les forces et les faiblesses d'une société, son passé et son avenir. Donc il ne s'agit pas de noyer l'individu dans une vision holiste du monde, il s'agit de l'émanciper. Je dirais qu'on n'est pas condamné au savoir local, on a droit, nous avons droit au savoir global. Et pour illustrer la contribution historique de la démographie à la construction d'un savoir global, je vais m'attarder sur deux exemples majeurs. Le premier, c'est au fond la façon dont le rapport numérique fille-garçon a été soustrait à la pensée sauvage. J'y ai déjà fait allusion, longtemps, les hommes n'ont eu qu'une idée très vague de la proportion de filles et de garçons à la naissance. Montesquieu, par exemple. Montesquieu était persuadé que plus on allait vers les pays chauds, plus il naissait de filles. C'est dans l'esprit des lois. Il n'excluait pas, d'ailleurs, que sous les tropiques, la proportion pouvait aller jusqu'à 10, enfin 10 filles contre un garçon. Et selon lui, cela expliquait évidemment très simplement la polygamie dans les pays chauds. Bon. Alors c'est une vieille idée qui est déjà avancée par Jean Bodin dans les 6 livres de la République en 1576, mais Montesquieu, lui, rattachait cette spéculation à une théorie de la génération et du climat qui superposait finalement les éternels dualismes de la pensée sauvage, le masculin et le féminin, le sec et l'humide, le chaud et le froid, le dur et le mou, etc. Pourtant, il connaissait le travail d'Arbuthnot, c'est pas l'homme qui avait imaginé le dé aux 35 faces. Il connaissait la proportion de naissance masculine, 18 sur 35, mais il pensait qu'elle valait seulement pour l'Europe tempérée. Et il ignorait que, 10 ans avant l'esprit des lois, Zuss-Milch avait multiplié les relevés pour affiner le calcul. Zuss-Milch avait obtenu 105 naissances de garçons pour 100 filles, ce qui est la proportion actuellement retenue par les démographes. Il n'avait pas seulement vérifié pour les contrées du Nord, il l'avait poussé dans certains pays du Sud, comme l'Espagne, il avait recueilli des données sur les îles Moluques, sur Kyoto, etc. La mise en évidence d'un rapport de masculinité constant à la naissance, c'est un simple constat empirique, aujourd'hui encore on l'ignore pourquoi cette régularité, mais elle illustre très bien cette mise en évidence, le rôle de garde-fou que peut exercer la démographie vis-à-vis des facilités de la statistique spontanée. Face aux brillantes spéculations d'un Montesquieu sur l'affinité du sexe féminin avec la chaleur tropicale, que pouvaient valoir les laborieux comptages de Zuss-Milch ou d'un mot dont nous parlerons tout à l'heure. D'un côté, un des plus grands esprits de son temps, de l'autre, un chercheur laborieux, un obscur bureaucrate, ce sont ces derniers pourtant qui avaient raison. Un autre exemple du pouvoir de révélation des enchantements que détient le calcul démographique est donné par la fameuse querelle de la population qui éclate sous le règne de Louis XV. Montesquieu avait prétendu déjà dans les lettres persanes que la France ne cessait de se dépeupler. Par la suite, le débat va opposer les physiocrates. Donc vous voyez ici les principaux. Et les physiocrates vont donc s'opposer aux intendants royaux. Les physiocrates sont convaincus, sans aucune preuve, que la population française ne fait que perdre des habitants. En un siècle, prétendait-il, elle avait chuté de 26 à 18 millions. Et les intendants de Louis XV, eux, étaient absolument convaincus du contraire, mais ils ne disposaient d'aucune donnée pour répondre à ces rumeurs accusatrices. Alors l'enjeu était de taille parce que pour les physiocrates comme pour les intendants, la dépopulation était un signe de mauvais gouvernement. Au fond, c'était le principal clignotant sur le tableau de bord de l'économie française ou de la bonne gouvernance, comme on ne disait pas encore à l'époque. Or, évidemment, une grandeur simple qui se contente de monter ou de descendre, comme le taux de chômage, l'indice de fécondité, le CAC 40 ou la cote du président de la République, eh bien, c'est une arme redoutable dans la bataille pour la conquête de l'opinion publique. Et en acceptant d'en débattre, l'État donnait des armes à ses opposants. Donc n'oublions pas, de toute façon, la leçon tirée des pyramides, au seuil de l'exposé, la capacité des dirigeants à maltraiter leur propre population est sans limite, elle peut se lire à livre ouvert sur une pyramide. Et donc, publier un bilan démographique, c'est vrai, c'est une manière de rendre des comptes, c'est une opération importante dans l'avènement du débat démocratique. Et je crois que c'est important de le rappeler, s'il est vrai que la démographie court toujours le risque d'être enrôlée dans les comptes de la puissance, comme on dit, elle recèle aussi un fort potentiel critique. Alors, je reprends mon histoire. Piqué au vif par la crise, la critique des physiocrates, les intendants royaux ripostent par une invention géniale. C'est la mise en place de la statistique du mouvement de la population. Elle est ordonnée en 1772, et c'est l'abbé Terray, le contrôleur général des finances, sorte de ministre des finances, ministre de l'Intérieur tout à la fois, qui ordonne à toutes les paroisses du royaume de transmettre chaque année aux intendants le bilan chiffré des baptêmes, des sépultures, des mariages. Et ainsi, on aura le cœur net sur l'évolution réelle de la population. La statistique du mouvement de la population est créée. La Révolution ne fera que passer le relais aux mairies, et de nos jours encore, c'est le ministère des Finances, par l'entremise de l'INSEE, qui récupère les données des mairies et qui entretient cette statistique fondamentale. Mais il ne suffisait pas de suivre le mouvement de la population, il fallait encore savoir à quel stock rattacher ces flux, connaître l'effectif de la population. Et là, le lancement de la statistique démographique à la fin du règne de Louis XV a été entouré d'une étonnante série d'expériences, c'est le terme utilisé à l'époque, qui ont été menées d'abord par quelques investigateurs bénévoles qui disposaient d'appui dans l'administration et qui étaient directement inspirés par un certain nombre d'intendants. Vous avez ici à gauche le nom des intendants et à droite les principaux personnages qui ont publié ces recherches sur la population de la France. Le dernier, le plus complet, celui qui se lit toujours avec une façon extrêmement agréable et passionnante, c'est celui de Mohaux, Recherches et considérations sur la population de la France, que l'INED a réédité en 1994. L'Académie des sciences aussi, de son côté, avec Lavoisier, avec Laplace, avec Condorcet, étudiait la question, mais sur un mode beaucoup plus théorique. Alors, comment vérifier si la population de la France croît ou décroît? D'emblée, on écarte la solution de l'enregistrement permanent qui avait déjà été appliquée par les Suédois au milieu du XVIIIe siècle. On est convaincu qu'un recensement ne serait pas toléré par les populations. Ils sont toujours promptes à voir le fisc ou les agents recruteurs partout, à confondre agents censeurs et agents recruteurs. Enfin bon. Donc, il faudra attendre le consulat pour qu'un régime suffisamment fort ose entreprendre un recensement de la population. En ces dernières années du règne de Louis XV, les seuls recensements jugés praticables sont ceux qui sont effectués, sont des comptages effectués ça et là à l'échelle des paroisses. Et donc, dans ces conditions, la question posée elle est simple. On connaît le nombre annuel de naissance d'un lieu donné. Connaissant ce nombre, peut-on déduire sa population? Si, par exemple, une paroisse enregistre 1000 naissances par an, combien compte-t-elle d'habitants? Eh bien, pour le savoir, on va essayer d'estimer ce rapport en comptant dans un échantillon suffisamment bien composé de paroisses, à la fois le nombre de naissances et le nombre d'habitants. Et puis ce rapport, supposant qu'il va être relativement constant sur l'ensemble du pays, on va l'appliquer à tout le royaume. Et comme on sait à l'époque, grâce aux recommandations de Terray, on sait qu'il y a environ 1 million de naissances dans le royaume. Eh bien, il suffit de le multiplier par ce coefficient multiplicateur pour avoir la population de l'ensemble. Alors, nous connaissons, nous, aujourd'hui, la relation qui lie le nombre des naissances à l'effectif d'une population. C'est le taux de natalité. Un taux de 40 pour 1000, qui est à peu près, un peu de choses près, le taux de natalité de l'époque, signifie qu'une population de 1000 habitants donne naissance dans l'année à 40 enfants. Mais à l'époque, c'est le rapport inverse que l'on définit. C'est l'inverse du taux de natalité, le multiplicateur des naissances. Et on ne dit pas 40 naissances pour 1000 habitants, on dit 25 habitants pour une naissance, puisque 40 fois 25 égale 1000, ou 1000 divisé par 25 égale 40. Et donc, il faut multiplier par 25 le nombre de naissances pour retrouver le nombre total d'habitants, que ce soit dans une paroisse en moyenne ou à l'échelle du royaume. C'est ce que donc les auteurs du 18e appellent le multiplicateur de naissance. Il a été, on le trouve pour la première fois en 1742, dans les travaux de Kersebaum, le Hollandais des rentes viagères. Vauban déjà l'avait anticipé. Voltaire s'est fait l'avocat de cet outil, on a fait la propagande auprès de ses amis intendants. Il a joué un rôle tout à fait positif dans cette affaire. Et les intendants, à partir de là, vont multiplier les expériences de comptage d'une région à l'autre afin de raffiner l'estimation du multiplicateur des naissances, qui finiront par fixer aux alentours de 25. 1 million de naissances dans tout le royaume, on le sait, fois 25, en gros 25 millions d'habitants à l'époque, à la fin du règne de Louis XV. Je simplifie, j'arrondis les chiffres, les chiffres réels sont ceux-là, un petit peu différents, mais c'est en gros le principe. Alors, vous l'avez peut-être noté au passage, il y avait à l'époque, en France, plus de naissances que maintenant. Pour 1 million au lieu de 740 000, pour une population qui ne faisait même pas la moitié de la population actuelle. C'est dire, au prix de quel gaspillage humain formidable, la population se renouvelait dans l'Ancien Régime. C'est un taux que l'on retrouve à peu près, enfin j'ai vérifié, dans un pays comme le Mali dans les années 50. Il naissait plus d'enfants qu'aujourd'hui, mais un très grand nombre mourait en bas âge, et le taux de mortalité infantile atteignait 280 pour 1000, autrement dit 28% des enfants, 28% des enfants mouraient avant l'âge d'un an. Et la mortalité continuait de frapper très fortement les tranches d'âge suivantes, si bien que la moitié des enfants n'atteignaient pas l'âge de 11 ans. Sur le million de naissances qu'il y avait chaque année, 500 000 mouraient avant l'âge de 11 ans. La vie probable, comme on le dit, ou la vie médiane, était seulement de 10 ans et demi. En chiffre absolu, donc, 280 000 enfants meurent avant l'âge d'un an chaque année, 500 000 meurent avant l'âge de 11 ans chaque année. Et du coup, l'espérance de vie à la naissance, ce qu'on appelle aussi la durée de vie moyenne, était extrêmement basse vers 1740, proche de 25 ans. Elle devait progresser par la suite, mais à la veille de la Révolution, elle n'avait pas encore dépassé 28 ans. Alors, est-ce que c'est un hasard si la durée de vie moyenne approchait 25 ans vers 1740, tandis que le multiplicateur des naissances était lui aussi proche de 25? Eh bien non. En fait, dans l'hypothèse d'une population stationnaire, les deux chiffres, multiplicateur des naissances et espérance de vie, coïncident. Dans les populations stationnaires, en effet, la population cesse de croître. Le flux de naissances est égal au flux de décès. L'effectif de la population devient simplement le produit du nombre de naissances, ce qu'on a à l'entrée, multiplié par la durée du tapis roulant, si j'ose dire, la durée de présence, la durée de vie moyenne. Une population stationnaire est comparable à un ensemble de pièces fabriquées qui circuleraient de façon imperturbable sur un tapis roulant, et vous auriez un rythme constant. Hein. Donc le nombre total de pièces présentes à un moment donné sur le tapis, eh bien, c'est le produit, c'est le débit à l'entrée ou à la sortie qui est le même, et c'est la durée de présence sur le tapis. Du coup, le multiplicateur qu'on applique à l'effectif de la population pour reconstituer la population totale, c'est la même chose que l'espérance de vie dans une population stationnaire. Et ça, c'est une découverte importante en démographie. On voit que l'espérance de vie et le multiplicateur des naissances se confondent. Il se trouve que dans la décennie 1740, c'était une hypothèse réaliste. Effectivement, la population stagnait, le taux de mortalité et natalité s'égalisait à 40 pour 1000. L'enquête menée par sondage sur les registres paroissiaux par Louis-Henri, l'enquête Henri, le montre. Mais quelques décennies plus tard, ça n'est déjà plus le cas et le taux de mortalité va peu à peu se décrocher du taux de natalité, 33 pour 1000 plutôt que 40. Alors, cette équation démographique entre l'espérance de vie et le multiplicateur des naissances dans une population stationnaire, elle sera dûment formalisée seulement en 1934 par Alfred Lotka. Mais Antoine de Parcieux, déjà en 1746, en donne une formulation extrêmement solide. Et Kersebaum lui-même, dans son traité, comprend qu'il y a un lien entre l'espérance de vie et le multiplicateur des naissances. Et au fond, cet usage du multiplicateur pour reconstituer la population totale à partir du nombre de naissances annuelles c'est plus qu'une astuce d'administrateur qui arrive à reconstituer le stock à partir du flux. C'est déjà l'esquisse d'une démographie qui est attentive à la dynamique des populations, qui est désireuse de modéliser les rapports entre grandeurs. Alors revenons à présent tout de même au bilan dressé par Moreau, 24 millions de Français vers 1760. C'est un résultat qui est remarquable à plus d'un titre. D'abord, il fait sensation parce qu'il redresse de 50% les estimations qui avaient été avancées par les physiocrates. Quesnay, dans l'article Grain de l'encyclopédie, prétendait avec aplomb que la France avait perdu 8 millions d'habitants en 100 ans, qu'elle n'en comptait plus que 16, et Moreau en trouve 24. Donc voilà la rumeur définitivement balayée par un vrai travail démographique. Deuxième vertu des calculs effectués par Moreau, eh bien, ces calculs s'efforcent de prendre en compte toute la diversité du royaume. Moreau sait que la natalité, ou son inverse, le multiplicateur de naissance, il sait qu'elle varie fortement selon les conditions de vie. Et ses recherches et considérations sur la population de la France constituent un admirable traité de démographie sociale ou de démographie différentielle, attentif aux effets de la pauvreté, attentif à l'impact des maladies professionnelles sur les décès, c'est un passage tout à fait extraordinaire, attentif aussi aux effets de la pollution. Il sait, par exemple, que l'immigration de jeunes célibataires qui affluent dans les villes en plein effort, eh bien, ça fait bouger, ça fait baisser le taux de natalité. Et il en tient compte quand il estime le multiplicateur. Et donc, tout en ayant le souci de la diversité locale et sociale, Moreau ne renonce pas à l'objectif final de la totalisation. Et l'échantillon retenu, cet échantillon paroisse, doit offrir une maquette, une sorte de maquette de l'univers global qui doit respecter les proportions des diverses catégories. Et un peu comme dans la méthode des quotas actuellement. Et il suit à cet égard les directives étonnantes de précision adressées par le contrôleur général Terray à ses intendants. Quand vous voulez déterminer le multiplicateur d'une région, ben choisissez bien les lieux. Et par exemple, le choix des lieux dénombrés doit être fait avec l'attention nécessaire pour comprendre proportionnellement les obstacles particuliers ou accidentels à la population, tels que sont les abbayes ou les communautés religieuses qui, en augmentant le nombre des individus sans participer à leur reproduction, changent nécessairement le rapport naturel des habitants aux naissances. Oui, c'est un texte tout à fait remarquable. On reconnaît dans ce texte la claire conscience de la contrainte de représentativité qui sera mise en œuvre bien plus tard par la technique des sondages, pas avant le milieu du XXe siècle en France. Alors, dernier mérite enfin du traité fondateur de Jean-Baptiste Moreau, et il repose sur un travail de collecte considérable, accompli avec des équipes de collaborateurs qui tournent sur le terrain. Et cette collecte collective de données, la première du genre, Moreau va jusqu'à la chiffrer. Elle a dû consommer un total de 20 000 journées de travail, effort effrayant de la multitude de coopérateurs dans cet ouvrage. Et donc tous ceux qui ont conduit des opérations lourdes au sein du système statistique s'identifient spontanément à Moreau, leur père à tous. Donc après, j'arrive bientôt à ma conclusion, après l'exemple de la proportion de filles et de garçons à la naissance, celui du nombre d'habitants de la France, reconstitué par Moreau, eh bien, nous conforte dans l'idée que le labeur démographique renferme un pouvoir de révélation considérable, il peut poser de solides garde-fous contre les spéculations invérifiables des essayistes. Mais vous voyez déjà que le second exemple est quand même plus complexe que le premier. Il ne s'agit plus seulement de compter ou de récupérer à moindre frais des données toutes prêtes à des fins de comptage. La démographie ne se résume pas au comptage. Elle est aussi et surtout une opération de mise en relation entre des différentes grandeurs. Et dans le cas que j'ai retenu, ces premiers démographes qui sévissaient au sein de l'administration, ils avaient un problème à résoudre que nous connaissons bien aujourd'hui, en particulier dans les pays en développement. C'est que faire quand les données sont lacunaires, quand elles sont inexistantes? Eh bien, il n'y a rien de plus stimulant pour l'imagination scientifique que d'avoir à résoudre des problèmes d'estimation indirecte. Et l'art du démographe consiste souvent à savoir travailler sur des données imparfaites. Par la suite, les démographes s'efforceront de définir aussi strictement que possible tout ce réseau de relations entre les différents paramètres qui déterminent la croissance d'une population. Les tables de types de mortalité en sont un bon exemple. Et plus généralement, de nombreux chercheurs ont contribué à arracher la démographie à la vision simpliste du comptage et à en faire quelque chose de dynamique, à l'orienter vers la description dynamique du renouvellement des populations. Voici un certain nombre de ces grands auteurs que la discipline se reconnaît. Avant-guerre pour les deux premiers, après-guerre pour les suivants. Alors cet objectif ne doit pas faire oublier que la démographie a aussi pour vocation de calculer les chances d'accès aux divers biens que la vie nous réserve, les chances de vie, comme disait Max Weber, les Lebenschancen. La démographie calcule les probabilités de survie, y compris celle de la survie en bonne santé, les probabilités d'agrandissement de la famille, les chances de reproduction d'une génération, la capacité à maîtriser les aléas de la reproduction au lieu d'en être victime, et ainsi de suite. Mais pour décrire la structure des chances d'accès, il faut encore être attentif à toutes les divisions qui découpent le corps social, comme savait le faire superbement Jean-Baptiste Moho. Il y a plus de 2 siècles, division entre hommes et femmes, division entre générations, entre pays, certes, mais aussi division entre les diverses classes de la société, que séparent des inégalités de richesse culturelles et économiques, lesquelles peuvent se repérer à travers le niveau de diplôme, la catégorie sociale, le niveau de revenu, le type de contrat de travail, le capital de relation, etc. Alors, livré à ces seules variables, le sexe, l'âge et le temps qui passe, le démographe risque de manquer cette dimension essentielle. Et c'est en s'ouvrant à d'autres disciplines, à commencer par la sociologie, l'économie et l'épidémiologie, elle-même éclairée par l'histoire, c'est en s'ouvrant à ces autres disciplines qu'il peut orienter son travail vers l'étude de la distribution sociale des phénomènes démographiques. Mais ça suppose évidemment que le démographe ne s'enferme pas dans des techniques d'analyse qui se contentent d'expliquer le démographique par le démographique, si vous voulez. Le démographe est très fort pour lier les variations de la fécondité à l'intervalle écoulé depuis la dernière naissance, à l'âge de la mère, aux effets de calendrier, au recul de l'âge de la mise en couple, etc. Mais il est déjà plus embarrassé quand il s'agit d'expliquer pourquoi Maubeuge, ville du Nord, ouvrière, etc., est la ville la plus féconde de France. Et les deux genres d'analyse doivent s'imbriquer. Alors, la démographie doit aussi admettre, ce sera mon dernier propos, que si elle peut éclairer, si elle peut apporter son éclairage sur les problèmes clés de notre temps, comme l'avenir de nos retraites, l'équilibre des générations, le statut des couples non mariés, la parité des sexes, la maîtrise de la contraception, le renouvellement du corps médical, l'épidémie de sida, les écarts de richesse entre nations, etc. Enfin, la liste est longue, l'intégration des immigrés. En fait, la démographie ne peut pas les réduire à des problèmes strictement démographiques, parce que ces problèmes ont bien d'autres dimensions, économiques, juridiques, politiques, éthiques, etc. Leur solution relève du débat public le plus ouvert. Le démographe ne peut pas imposer sa solution au nom de je ne sais quelle science souveraine, même s'il doit veiller à poser les garde-fous nécessaires. Et si la démographie veut conjuguer intérêt scientifique et utilité sociale, elle doit s'insérer dans l'ensemble plus vaste des études de population, qui sont forcément pluridisciplinaires. Et je crois que le démographisme est un redoutable danger pour la démographie. Merci.
Merci. Je vais vous demander de le... si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez lever la main et les appariteurs vous font passer les micros. Une question ici.
C'est branché là. Allô. Alors, vous avez parlé de l'influence des guerres, des décisions politiques sur la démographie. Je me souviens, il y a quelques années, disons 6 ou 7 ans, il y a eu une conférence en Égypte, la conférence des femmes, sur la démographie dans les pays du tiers-monde. Alors, j'ai cru comprendre que les pays du tiers-monde devaient, pour pouvoir réussir économiquement, baisser le taux de natalité. Alors, je constate aujourd'hui que sur les diagrammes que vous nous avez montrés, que le sida n'a pas fait tellement de dégâts en Europe, en France plus particulièrement. Par contre, actuellement, en Afrique et dans les autres pays du tiers-monde, c'est des millions de morts. Alors, ma question, c'est ceci. Est-ce que, après ces conseils, disons, de baisse de natalité, le problème du sida, ce silence, disons, au niveau de l'Europe et des pays développés sur le sida, est-ce que c'est une façon de réguler la démographie dans les pays du tiers-monde?
Non, alors, ça rejoint un petit peu ce que disait Zusmilch sur la mort, qui était finalement dans le dessein de Dieu, hein, et la relation qu'on peut se demander parfois s'il n'y a pas une relation entre le détachement stoïque et le cynisme. J'ai fait allusion à ce problème par ce biais-là, pour une période plus ancienne, mais on peut se poser la question. Je dois dire que les démographes ont consacré beaucoup d'énergie à essayer de quantifier les effets démographiques de l'épidémie de sida. Il vient d'y avoir lieu à Durban, en Afrique du Sud, il y a quelques semaines, j'y étais d'ailleurs, un grand congrès des démographes africains et africanistes, organisé par les Africains, par l'Union pour l'étude de la population africaine, l'UEPA, dans laquelle il y avait notamment des estimations extrêmement saisissantes, vous avez raison, des effets du sida. Donc les démographes, que ce soit au niveau international, au niveau aussi des chercheurs africains, qui sont de plus en plus nombreux sur le sujet, les démographes africains sont de très bonne qualité, ont fait le maximum pour alerter, pour tirer le signal d'alarme et pour dire, voilà, vous voyez, il y a un recul formidable de l'espérance de vie dans tel et tel pays à cause du sida. Mais évidemment, ce n'est pas le démographe qui, lui, va préconiser les solutions. Donc, la question de savoir où est la thérapie, la trithérapie est au nord et les malades sont au sud, disait Kouchner, par exemple, récemment. Bon, c'est un problème, évidemment, qui dépasse celui du démographe. Mais là, le démographe, je pense, a joué son rôle pour mesurer l'ampleur du phénomène.
C'est à moi. Oui, ben moi, ma question, enfin, disons, mon intervention rejoint l'intervention du monsieur précédent. Il y a eu un monsieur qui s'appelait Malthus, je crois que c'est au 19e siècle, si je ne me trompe.
Non, c'est 1798, Malthus.
À la limite. Bon.
Oui.
Qui prétendait que, en se référant à l'Irlande, que moins la population serait nombreuse, moins on aurait de difficultés économiques pour nourrir cette population. Or, il s'est avéré que là, la démographie a été utilisée d'une manière idéologiquement abusive, puisque de toute façon, il a été réfuté, entre autres par Marx, qui a bien démontré que précisément, l'accroissement des naissances, et il se référait à l'Irlande, plus une population nombreuse, plus elle a de ressources. Contrairement à ce qu'on pense. Et c'est très important parce qu'en fait, l'Irlande, justement, s'appauvrissait en population et s'appauvrissait aussi économiquement. Alors, je veux dire par là que la démographie peut être utilisée de façon tout à fait idéologiquement perverse. Et l'on voit actuellement que, par exemple, au niveau des retraites, on prétend que... on reprend certaines théories malthusiennes. On dit qu'il y a trop d'enfants dans le tiers-monde, donc les gens sont pauvres. C'est faux. Parce que de toute façon, à mesure que le niveau de vie s'accroît, la population, de toute façon, tend à se stabiliser. Plus les gens ont un niveau de vie élevé, moins ils font d'enfants. Donc, il y a une stabilisation. Et d'autre part, il a été prouvé qu'il n'y a pas de relation entre la démographie et entre le nombre d'habitants et les possibilités économiques du monde, puisque de toute façon, un certain nombre de chercheurs ont bien démontré qu'il y avait encore place sur la planète pour 12 milliards d'individus et que ça ne posait pas de problème, à condition, bien entendu, qu'il y ait une répartition équitable et que l'on fonctionne sur d'autres
bases économiques. Je suis intéressé par ce point de vue, mais quelle est votre question, finalement?
Ma question, justement, c'est pas une question, c'est une intervention, justement, oui, sur l'usage abusif qui peut être fait de la démographie et sur lequel vous avez souligné... Les aspects, quoi. Et je veux dire que la démographie peut aussi combattre ces choses-là.
Oui, tout à fait. Non, je crois qu'il y a... on est d'accord sur le fond. Je ne reviens pas sur le débat Marx-Malthus qui est très compliqué. Il y a une immense littérature sur le sujet. Il y a deux Malthus, enfin en plus, deux éditions du livre qui ne disent pas la même chose, etc. Bon. Donc c'est un peu compliqué. Mais bon, il ne faut quand même pas se leurrer. D'abord, il y a une information, c'est que la fécondité baisse dans tous les pays, y compris les pays en développement. La transition démographique, au fond, et là, Jacques Vallin, dans une des prochaines conférences, va vous en parler vraiment à fond. Le sujet qui vous intéresse là, c'est vraiment le sujet dont va parler Vallin et dont parlera également Chenet dans une des prochaines conférences que je n'ai pas pu aborder. Il y a des pays comme le Mali dans les années 50 étaient extrêmement pauvres on ne peut pas nier qu'il y a eu un lien à un certain moment dans ces années-là entre le surpeuplement et la pauvreté. Ça paraît incontestable, que ce lien a existé à un certain moment. Bon. Alors, ce n'est pas une loi constante générale, c'est ça qu'il faut éviter de faire. Mais je... Il n'est pas si facile que ça de répondre à votre question simplement. Ça a tellement été débattu. Je dirais qu'actuellement, la population de tous les pays en développement connaît des changements considérables et notamment des baisses de la fécondité tout à fait significatives, y compris en Afrique où ça a bien commencé. Simplement, ce qui sépare les différents pays occidentaux, asiatiques, européens, etc., c'est qu'ils sont à des étapes différentes de la transition démographique. Et donc, il y a des moments où coexistent en même temps sur la planète des gens qui sont des pays qui en sont à des stades complètement différents, et du coup, crainte de l'envahissement par le nombre, crainte d'être victime du surpeuplement des autres, on est malthusien pour les autres, on est nataliste pour soi, etc. Mais simplement, les pays étaient à des moments différents de cette transition démographique par laquelle finalement il semble que tout se passe actuellement ou en passé, y compris les pays d'Afrique noire par exemple, qui avaient encore les taux de fécondité les plus élevés de la planète, 7, 8 enfants par femme par exemple, il y a une dizaine d'années.
Oui, je reviens en France. Je voulais vous poser la question suivante. L'étude de Moho et de ses prédécesseurs ont-ils travaillé sur les registres paroissiaux catholiques? Puisque jusqu'en 1786, les personnes de confession protestante et jusqu'en 1792, me semble-t-il, les personnes de confession juive n'avaient pas d'état civil. Et est-ce que les études maintenant qui ont été reprises, puisqu'on travaille sur ces registres paroissiaux, permettent d'augmenter sensiblement ce chiffre de 24 millions ou bien c'est absolument, enfin, pratiquement insignifiant ?
Alors, bien sûr, les historiens, spécialistes de la démographie, étaient attentifs à la diversité des religions et aux biais que ça pouvait introduire dans la disponibilité des registres. Il se trouve que les Anglais eux-mêmes, parce que l'Angleterre des années 1660, à l'époque de Grant, était déjà divisée en plusieurs... il n'y avait vraiment d'état civil, de registre paroissiaux que pour la religion majoritaire. Il y avait toute une série de sectes qui n'avaient pas de registre. Et dès cette époque-là, les auteurs disent tout de suite, attention, quand on prend uniquement les registres, on n'a pas tout le monde, et surtout à tel et tel endroit, il faut corriger en tenant compte de... Et ils font des petits sondages ou des petites enquêtes presque qualitatives à certains endroits pour essayer d'estimer effectivement le chiffre de la population lorsqu'il n'y a pas de registre. Les auteurs comme Louis Henry, auteur de la grande enquête démographique qui a permis de reconstituer la population de la France par une autre méthode que celle de Moho, même si ça passe aussi par un échantillonnage des paroisses, évidemment tient compte de ça, tient compte de toutes les minorités qui biaisaient les calculs. L'armée, par exemple, l'armée avait ses propres registres de décès pendant longtemps, on ne savait pas où ils étaient et et ça biaisait beaucoup les calculs lorsqu'il y avait une ville de garnison, par exemple. Vous voyez, des choses comme ça.
Allez-y.
Ma question n'est qu'un point de détail. Vous nous avez précisé que les empereurs romains procédaient non seulement à des recensements, mais délivraient des certificats de citoyenneté romaine. Quel était le support de ces deux opérations ? Alors, du papier russe, du parchemin ?
Alors non, c'était, semble-t-il, essentiellement des tablettes d'argile. Il n'en est rien resté physiquement, rien resté. Et par contre, nous avons des références littéraires, des allusions écrites tout à fait précises. Par exemple, la correspondance de Pline, qui était gouverneur à je ne sais plus quel endroit, fait référence de façon tout à fait claire à de tels documents. Donc les témoignages sont suffisamment nombreux pour qu'on soit sûr que cette documentation existait. On ne sait pas si ces registres étaient centralisés à Rome ou s'ils existaient uniquement dans les sièges des provinces. Ça, on ne le sait pas, mais ça a bel et bien existé. On sait même dans quel endroit c'était archivé, mais c'était un matériau tout à fait labile qui a disparu.
Je vous remercie.